Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez désormais, vous montrer qu'il y a en France des hommes et des femmes qui agissent pour inventer la société de demain. Aujourd'hui, on vous emmène en mer. On va suivre les marchandises du port à leur destination, des voyages de plus en plus innovants grâce justement à des Français qui ont développé de nouveaux systèmes. Elle a 170 ans d'existence, fabrique des tissus élastiques pour le médical, mais pas que. Tuan est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis une nouvelle génération d'éthylotests connectés, c'est la solution pour conduire en toute sécurité. Et c'est Olite, c'est ça la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez, vous savez que c'est votre émission, vous avez la parole comme chaque jour. Par exemple, si vous travaillez dans le secteur maritime, vous êtes évidemment concernée, Anissa.
Oui, vous pouvez réagir, témoigner et poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. Jusqu'à 14h, le 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux, Twitter par exemple, avec le hashtag Europe 1.
Et vous allez voir que nos invités ont déjà en tête le transport de demain, plus propre, plus écologique aussi. Pour les accueillir à mes côtés, Elisabeth Assayagela, bonjour.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Augustin Paluel-Marmon qui est avec nous. Bonjour Augustin.
Bonjour à tous, bonjour Raphaël.
Le trublion de Michel et Augustin. Quand on parle transport maritime, on pense évidemment pollution. Or, si nous devons tous faire un geste pour la planète, le secteur n'est pas en reste. Bonjour Michel Perry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Neoline, cette start-up nantaise a pour ambition, je vais essayer de résumer, de faire voyager les cargos, non plus sur des navires qui ont dans leur soute des tonnes et des tonnes de fuel, mais de les transporter sur des cargos à voile, c'est voilà. Ça
l'idée est parfaitement innovante, elle n'a que 5 000 ans.
Oui, c'est ça. On revient en arrière, mais avec les moyens du futur.
On revient en arrière puisqu'on a constaté un peu les excès dans lesquels nous étions engagés. Le combustible, donc, n'avait pas imaginé le côté émissif, on n'avait pas imaginé les côtés de dépendance. Et entre-temps, la voile s'est développée par nos amis de la plaisance et de la course. Et donc, en adoptant les connaissances développées et puis la prévision météo et le routage, aujourd'hui, la voile de travail redevient complètement pertinente.
Alors racontez-moi, comment est-ce qu'en 2015, votre projet naît ? Vous avez navigué évidemment pendant 40 ans, hein, je crois, ce qui vous donne quand même une bonne connaissance du secteur.
Merci de le souligner. Oui, donc le projet est né avant dans nos esprits, mais la société se crée en 2015. Donc l'idée, la punchline, c'est de créer donc un armateur fournissant un service de qualité, sur mesure pour le client et décorrélé toutefois des cours de l'hydrocarbure, donc en s'engageant dès le début à 85 à 90% de réduction des hydrocarbures, des combustibles.
La voile, c'est, vous l'avez dit, un retour en arrière. On le faisait avant ou en avant, parce que vous faites un... Alors, 4 mâts, 8 voiles, un peu quand même de gasoil dans les soutes, hein, sait-on jamais, mais de gasoil, j'ai bien dit, pas de fuel, et ça c'est important. Et puis, c'est un peu sur le côté, c'est ça, si j'essaye de décrire, les voiles, elles ne sont pas dans l'axe.
Voilà, les caractéristiques du navire, donc le parti pris du gréement, des mâts, c'est effectivement un gréement que nous appelons duplex, donc les mâts sont implantés sur les côtés du navire, ça libère de la place sur le navire, ça favorise la structure du navire, et puis ça permet des capacités voilières, notamment pour la remontée au vent, puisque l'inconvénient, la limite de la voile, c'est toujours l'incapacité de remonter face au vent, et donc ça améliore cette remontée au vent.
Elisabeth, le trafic maritime, c'est un transport polluant massif, on peut le dire. Qu'est-ce que ça représente ?
Allez, je vais vous donner quelques chiffres. Hein, pour vous donner une idée, 80% des biens manufacturés circulent via les conteneurs. La croissance du transport maritime est en hausse, hein, plus 2,8% en 2017. On s'attend à plus 3,2% jusqu'à d'ici 2022, donc ça ne s'arrête pas. 72% des importations se font par cette voie. Donc l'enjeu, ben, c'est quoi ? C'est de transformer ce type de transport, hein, c'est ce que nous allons voir pendant toute l'émission, en un système plus respectueux de l'environnement. Et là, cet enjeu, il est de taille.
Alors justement, Michel Perry, l'idée, c'est que sur vos bateaux, on puisse faire transiter des objets très volumineux, ceux qu'on mettait sur les rouliers, hein, c'est ça, notamment, c'est-à-dire des grosses pièces, des voitures, des camions.
Dans le parti pris technique, donc nous sommes un primo-armateur, donc il ne vous a pas échappé que les armateurs ont plus tendance à disparaître depuis 40 ans. Donc nous sommes à contre-cycle, primo-armateur, il y a des problèmes de positionnement. Donc le positionnement, c'est justement de ne pas se heurter à la concurrence des navires massifiés, des ports-conteneurs notamment. Mmh. Et donc c'est d'aller sur, d'une part, un secteur géographique entre deux ports qui n'étaient pas directement connectés jusque-là, et sur ces deux interlandes, de recruter du fret qui est déjà tarifé à un taux suffisant pour faire vivre le projet.
C'est pour ça que Renault a signé avec vous et c'est pour ça que vous voulez ouvrir une ligne bientôt, en 2022, c'est demain, entre Saint-Nazaire et les États-Unis, c'est ça?
2021 même.
2021.
Voilà, les têtes de ligne seraient Saint-Nazaire et Baltimore, et avec un passage par Saint-Pierre-et-Miquelon sur le retour. Et puis un autre port espagnol certainement et un autre port US.
Ça met un peu plus de temps évidemment qu'un trajet normal. On était à 8 jours, là on serait à 13, c'est ça?
Nous nous engageons sur une vitesse commerciale de 11 nœuds que nous avons pu valider puisque nous avons simulé...
Alors 11 nœuds, pour ceux qui n'ont pas le pied marin, on va traduire.
20 km/h, voilà. Versus 16-17 nœuds pour les navires classiques. Pardon.
Que dit notre coach, Augustin?
Moi, je trouve que le chiffre que tu as cité tout à l'heure sur 80% des produits manufacturés sont passés via le transport maritime, je trouve que c'est pas vrai comme chiffre.
Je vais me permettre de vous corriger. Alors 80% sur les conteneurs, on annonce 90%, mais ça c'est oublier que les composants avant le produit final, c'est 11 milliards, c'est plus de 11 milliards de tonnes.
Donc c'est pire.
Je trouve que c'est un chiffre que personne n'a vraiment en tête et c'est monstrueux. C'est-à-dire quand on prend une pomme qui vient du Chili ou qui vient de Nouvelle-Zélande qu'on achète à l'heure du déj, c'est forcément passé. Et moi, j'ai eu la joie de visiter le port du Havre avec notre ex-maire et présent Premier ministre. Et on voit donc le port du Havre, c'est toute une économie qui n'est pas visible, qui est absolument incroyable. Et c'est vrai, quand on parle aujourd'hui de transport maritime, moi, en tant que citoyen français, le premier truc auquel je pense, c'est même pas la pollution de l'utilisation, c'est la pollution suite aux accidents qu'il y a.
Michel Perry.
Alors, effectivement, la masse transportée fait que l'impact existe. N'oublions pas toutefois qu'en gaz, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport maritime et le plus vertueux à la tonne transportée,
devant le routier. Et un petit point sur les pollutions massives qui nous marquent tous via les médias suite à des accidents. Est-ce que là-dessus... pour ôter ça de l'image de la tête des Français.
Donc, dans la tête des Français, il faut souvent clarifier donc, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce ne sont pas des polluants, donc c'est du CO2. Donc, ça, c'est clair, le transport maritime est vertueux. Par contre, dans les polluants, donc, il y a les particules, et puis les oxydes de soufre et les oxydes d'azote, les NOx et les SOx. Et là, le transport maritime n'est pas vertueux parce que, comme vous le disiez, Raphaël, nous brûlons du combustible, du HFO, du Heavy Fuel Oil, qui lui contient beaucoup de...
Mais vous dites, on fera avec ce système celui que vous voulez, faire une économie de 90%, c'est ça, de combustible?
Donc, au-delà de l'économie à laquelle nous engageons de 90% du combustible, les 10% restants, dont la moitié d'ailleurs ne sert qu'à fournir le courant bord, c'est-à-dire l'éclairage, la climatisation, le reste étant nécessaire pour le chenalage, la remontée des estuaires et les mises à quai. Donc, ce peu de combustible qui sera utilisé sera effectivement du MDO, c'est-à-dire du gasoil. Alors, certes, un peu moins propre que celui que nous mettons dans nos voitures, mais en tout cas, beaucoup moins émissif en termes de polluants.
Je voudrais qu'on fasse un point, justement, sur la pollution. Elisabeth, vous avez des données, et puis on a aussi quelques données sur les conséquences.
Alors, là, je vais vous parler, par exemple, d'un bateau de croisière. On n'est pas sur les porte-conteneurs dont je parlais tout à l'heure. Juste côté soufre, un bateau de croisière, c'est l'équivalent d'un million de voitures. Vous vous rendez compte? 1 million de voitures, et sur certains territoires qui sont qualifiés de zones de contrôle des émissions, eh bien les bateaux ne peuvent naviguer qu'avec un carburant composé au maximum de 0,1% de soufre. Alors, ce n'est pas à côté de chez nous, c'est le cas de la mer Baltique, de la mer du Nord, d'une zone d'Amérique du Nord et enfin de la mer des Caraïbes.
Michel
Perry.
Et la Manche.
La Manche aussi. Mais donc une nouvelle législation qui va entrer en vigueur en janvier 2020.
Oui, on a une nouvelle réglementation qui est obligatoire.
Donc l'annexe 6 de Marpol.
Ça va nous permettre.
Donc en dehors de ces zones CK qui comprennent la Manche également, où c'est 0,1, c'était 0,1.
Quel est
l'objectif
de réduction?
Toutes les zones du monde, c'est 0,5% versus 3,5% de soufre.
Oui.
Donc un renchérissement déjà anticipé par tout le monde. En gros, le fuel à zéro, désulfurisé, on va l'appeler comme ça, va prendre 50% d'augmentation avec une répercussion sur les taux de frais de 12 à 15%.
Oui, on voit qu'il est effectivement urgent d'agir. On reste ensemble et on continue à parler innovation et transport maritime.
Il est 13h10.
Europe 1. Raphaël Duchemin.
Et avant de faire prendre la mer aux navires, il faut évidemment les remplir et poursuivre les containers de leur point de départ. À leur arrivée, une start-up a imaginé un traceur intelligent. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1. Elle navigue même aujourd'hui avec cette question que vous posez à vos invités, Raphaël Duchemin. Comment rendre notre fret maritime plus écologique? Vous pouvez réagir. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, vos questions, vos témoignages, vos réactions. Hashtag Europe 1 sur Twitter. 3921, c'est le standard.
On a tous vu des films qui se déroulaient sur un port avec des enquêteurs qui cherchent un conteneur bien précis, qui ne le trouvent pas forcément. Mais ce qu'on va vous faire découvrir maintenant n'est pas une fiction. Bonjour Sylvain Prévost.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur développement business chez Traxsense. Traxsense, c'est une start-up marseillaise qui a mis au point la traçabilité des conteneurs grâce à des capteurs intelligents. Alors racontez-moi comment naît le projet. On est en 2012, 2013.
C'est ça, un petit peu avant. Donc la société est née en 2012, mais le projet a mûri un peu auparavant. Et donc à Marseille, dans l'écosystème, on a un grand secteur électronique. Et donc Michel Fallat, le fondateur, qui est un des inventeurs finalement des technologies sans contact.
Un des anciens de J'aime Plus.
Exactement, une des pépites de la région marseillaise, a rencontré CMA-CGM et M. Saadé qui lui a dit « Vous verrez un jour, tous mes conteneurs seront équipés de puces ». Et je pense que c'est comme ça que l'idée a germé jusqu'au point d'avoir développé la technologie qui rend cela possible.
Donc vous mettez, on va schématiser, un boîtier sur le conteneur, sur la porte par exemple. C'est quoi? C'est un traceur? C'est quelque chose qui permet de géolocaliser le conteneur?
Exactement. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'objets connectés, Industrie 3.0. Traxsense, c'est transformer un objet qui finalement est au cœur du commerce international, le conteneur maritime. Vous mentionnez les chiffres tout à l'heure, en lui ajoutant de l'électronique. Et donc cette électronique permet plusieurs fonctionnalités, on va dire. La première, c'est la localisation.
Oui.
Donc il y a un capteur GPS qui permet de prendre la position, de détecter les entrées et sorties de zone, mais également d'autres fonctionnalités intéressantes comme l'ouverture de porte.
Oui, savoir si effectivement il a été fracturé ou pas.
Exactement, sécurisation de la marchandise, voire d'autres cas, c'est le suivi de la condition de la marchandise, suivi des chocs, des températures, de l'humidité.
Suivi des températures, donc, parce que suivant ce qu'il y a à l'intérieur du conteneur, évidemment, ça peut poser problème.
Exactement.
Par exemple, si vous transportez du vin, il y a des changements
de
température.
C'est un très bon exemple. Aujourd'hui, quand on transporte du vin, on ne choisit pas forcément le transport dans un conteneur frigorifique qui coûte beaucoup plus cher. En revanche, on a besoin de monitorer la qualité du vin pendant le transport parce que ce n'est pas en ouvrant la porte et en voyant que les caisses sont encore là qu'on peut être assuré que le vin est de bonne qualité. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir monitorer des éléments qui n'étaient pas monitorables, on va dire, jusqu'à présent.
Ça veut dire que c'est important pour le client qui fait transporter la marchandise, mais aussi pour celui qui le reçoit. C'est intéressant, cette technologie.
C'est un très bon point. Aujourd'hui, nos clients principaux sont finalement ce qu'on appelle les chargeurs, donc les propriétaires des marchandises, parce que in fine, c'est eux qui bénéficieront de l'opportunité d'avoir une meilleure visibilité sur leur flux et d'avoir un meilleur transport.
Ça veut dire que vous savez aussi si la marchandise est en retard?
Exactement. Bah, l'idée, c'est de pouvoir comparer finalement le plan de transport réalisé avec le plan de transport théorique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un vrai sujet dans le transport maritime d'anticipation d'arrivée des conteneurs. Et donc, ça va permettre d'avoir une meilleure visibilité, de donner aussi une meilleure synchronisation. Parce qu'il faut se rappeler que le conteneur maritime, c'est aussi un transport où il y a énormément d'acteurs qui se relaient, qui se passent finalement le témoin. Et donc, de créer cette couche de visibilité va permettre une meilleure synchronisation entre les acteurs. Et in fine, ça veut dire gagner du temps et donc réduire les stocks en transit, etc.
Que dit notre coach ?
Non, mais je trouve ça à la fois superbe. On a du mal à croire que ça n'existait pas avant. Moi, je vous dis, la seule fois où j'ai vraiment déménagé pour aller à New York, j'étais capable de suivre quelques années en temps réel sur une app où était mon conteneur et où était le bateau, si le bateau était en retard, pas en retard, si on était en déchargement ou pas encore à New York. Donc quelle est la rupture technologique ou qu'est-ce qu'il y avait avant? Parce qu'on suivait quand même les conteneurs avant, non?
Alors, tu es le premier, Augustin, à me dire que tu étais capable, dans le cas d'un déménagement, d'avoir une bonne visibilité sur ton conteneur, mais c'est bien que ça soit possible. Mais aujourd'hui, dans le transport maritime conteneurisé, finalement, on suit ça par milestone. C'est-à-dire à chaque fois qu'on passe par jalon, à chaque fois qu'on passe une étape, ben on formalise l'étape et donc vous avez effectivement confirmation d'arrivée au port, confirmation du départ navire, etc.
Le bateau, mais pas le conteneur.
Oui, et puis surtout, on peut aller plus loin dans l'anticipation, savoir où est le conteneur, même s'il n'est pas dans un port. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, par contre, qui ressort souvent, c'est comment c'est possible que ça n'existe pas aujourd'hui. On a tous un téléphone dans la poche, et pourtant, les conteneurs ne sont pas équipés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un conteneur, il n'a pas d'énergie. Donc prenez votre téléphone, essayez de le coller quelque part et d'arrêter de le brancher pendant 24 heures. Et au bout d'un moment, il y aura une petite complexité. Donc l'enjeu énergétique est clé. Être capable d'équiper des conteneurs qui ne seront jamais réalimentés avec quelque chose qui va pouvoir communiquer. Et le deuxième, c'est la robustesse. Vous êtes dans un environnement qui est extrêmement difficile, sur les ponts des bateaux. Enfin, c'est pas de tout repos de pouvoir avoir une électronique pérenne dans ce genre d'environnement.
Alors aujourd'hui, vous le posez dessus, ce petit traceur. Hein. Je schématise, mais demain, est-ce qu'on peut imaginer qu'il sera carrément intégré à la conception du container? Parce que c'est vrai que ça n'a pas beaucoup bougé, le container. Celui qu'on a aujourd'hui, c'est celui qu'on avait il y a 100 ans.
Alors ce qui est sûr, c'est que Traxens, contrairement contrairement à d'autres concurrents qui adressent un marché de niche qui est l'équipement du conteneur au voyage, nous on a vraiment une vision de la massification. Mm-hmm. Donc on équipe de manière pérenne et demain les conteneurs seront équipés nativement et de manière pérenne d'électronique. Donc ça, c'est un premier élément. Par contre, il est vrai aujourd'hui qu'on a un marché du rétrofit, donc il faut qu'on équipe les conteneurs existants. Ouais. Et là, dans ce marché-là, je fais souvent la comparaison avec le GPS à l'époque dans votre voiture, où vous preniez votre GPS, vous le colliez sur la vitre. Bon, ben aujourd'hui, vous avez le GPS qui est intégré dans la voiture. Ouais. On aura exactement la même démarche dans le conteneur maritime. Aujourd'hui, on travaille avec les fabricants des conteneurs pour intégrer nativement ces technologies. Et les boîtiers que l'on pose aujourd'hui sur la porte des conteneurs, qu'on installe, seront bientôt, entre guillemets, un mauvais souvenir. En même temps, le taux de renouvellement des conteneurs est tel que ça va perdurer encore un petit moment.
Oui, et c'est pour ça que vous avez obtenu le trophée INPI, je crois, et que la SNCF, qui fait du fret aussi, est intéressée par votre système.
Le projet INPI, c'est vraiment la consécration d'une innovation technologique qui a rendu justement l'efficacité énergétique possible. Donc, ce n'est pas juste changer un modèle, c'est vraiment une innovation technologique. Et c'est intéressant de mentionner la SNCF. On a un projet sur le rail aussi pour rendre plus efficace le transport ferroviaire, qui est un des chemins du conteneur quand même, donc c'est pas...
Évidemment.
On veut rendre compétitif le transport ferroviaire pour avoir plus de report modal. Encore une fois, on parle de gains énergétiques, c'est aussi ça tout l'enjeu.
On reste ensemble, on continue à parler transport maritime et innovation sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Gérer la chaîne de transport de A à Z, c'est l'ambition affichée par Marseille Gyptis International, MGI. On en parle ensemble dans un instant, à tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et aujourd'hui, une question, Raphaël, que vous posez à vos invités. Comment rendre notre fret maritime plus écologique? Vous pouvez réagir, vous avez peut-être des idées à proposer, vous travaillez peut-être dans le secteur. Hashtag Europe 1, vos messages sur Twitter, nous les lisons dans un instant. Et le 3921, c'est le standard, vous connaissez par cœur.
Nous sommes avec Dominique Le Breton. Alors, je vais essayer de résumer. Vous êtes membre du directoire et vous avez sous votre direction le pôle innovation projet audit de Marseille Gyptis International, MGI. Bonjour.
C'est exactement ça. Bonjour, c'est ça. Raphaël Duchemin.
Et vous éditez des logiciels spécialisés dans le suivi de marchandises, notamment des marchandises portuaires. Votre ambition, c'est quoi? C'est créer une blockchain pour gérer justement la fameuse chaîne de transport dont on est en train de parler?
Alors exactement. Ce qu'il faut savoir dans le transport maritime, c'est qu'on est un transport qui relie une vingtaine d'acteurs. Des acteurs qui sont des acteurs publics, on va dire. La douane, hein, vous parliez tout à l'heure d'un déménagement. Il y a une douane au milieu. Il y a des autorités portuaires et il y a des professionnels portuaires qui échangent des documents, qui échangent de l'information, beaucoup d'informations. Et notre système d'information, le système d'information qui s'appelle CI5, permet de relier...
Channel 5, c'est ça?
Alors CI5, Cargo Intelligent 5, ouais. Parce qu'on se veut intelligent aujourd'hui.
Il y a aussi
Channel 5,
on en parlera plus tard.
Notre système qui met en œuvre l'intelligence artificielle. Voilà, dans notre écosystème, on a une difficulté qui est l'échange d'informations entre les acteurs. Et nos systèmes d'information, qu'on appelle des CCS, a besoin d'un chef d'orchestre au milieu de tous ces flux d'informations. Et c'est ce que fait la société MGI depuis plus de 30 ans.
Ouais, donc 1985, c'est là que tout commence. Il y a Marseille derrière, il y a la ville de Marseille.
Il y a le grand port maritime
de Marseille. Le port autonome de Marseille.
Au départ. Et il y a surtout les associations professionnelles du monde portuaire. Donc je vais les nommer, le syndicat des transitaires de Marseille, l'association des agents de Marseille, la manutention est représentée chez nous.
Vous les nommez
également,
parce que vous dites, c'est important en fait, ce sont des maillons de la chaîne, la fameuse future blockchain aussi finalement.
Exactement. Donc la blockchain, c'est une technologie aujourd'hui qui émerge. Nous, depuis 30 ans, on aime à dire qu'on est une start-up qui avons 30 ans et on a mis en place un système d'information justement qui sécurise et qui reprend tous les flux d'informations entre les acteurs de cette chaîne logistique. C'est très important. Pourquoi? Je vous donne un chiffre. un export d'un conteneur, c'est une centaine de mails qui est échangé, c'est une centaine d'appels entre les différents acteurs pour faire en sorte que la marchandise, depuis son point de départ jusqu'à son point de sortie des ports que l'on gère aujourd'hui, soit tracée et qu'on ait un transfert de responsabilité entre les acteurs.
Vous avez un autre projet aussi qui s'appelle MER, hein, avec un S. C'est pour quoi faire ça ? C'est pour rendre la façade méditerranéenne plus compétitive. Alors, pour aussi travailler sur l'axe Rhône-Saône, c'est ça ?
Exactement. Le projet MERS, c'est un projet qui vise à démontrer que la blockchain est une technologie pérenne et a une potentialité, en fait, pour améliorer la compétitivité de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. On a la chance, à Marseille-Fos, d'avoir tous les modes de transport, dont le fleuve, dont le train, qui sont des modes, vous l'avez dit, qui sont plus vertueux au niveau de l'environnement que la route. Et ce projet vise justement à améliorer la compétitivité de cet axe méditerranéen.
Vous allez faire comment, justement, pour améliorer cette compétitivité ? Je crois qu'il y a des tests qui sont en cours et ça va démarrer au mois de juin, c'est ça ?
Exactement, ça démarre. Le projet, donc la gestation du projet a été faite sur l'année passée, en fait. Et on a monté un consortium, un partenariat avec trois sociétés, si je peux les nommer, qui sont la société KIX, la société Baïko, et supporté par le Grand Port Maritime de Marseille, dans le cadre du Smart Port Métropolitain.
Ça veut dire qu'on va changer quoi par rapport à ce qui se fait aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent et qui essayent d'imaginer ce qu'il y a de nouveau dans ce projet MER ?
Alors aujourd'hui, la blockchain est une technologie en fait qui permet de sécuriser des transferts d'informations entre un acteur et un autre. On peut dire que la blockchain, c'est un grand livre où les informations sont écrites et restent ad vitam aeternam et de manière pérenne en fait et indestructible.
Donc, ça veut dire que vous allez vraiment intéresser les assureurs avec tout ça, dites-moi.
Exactement. Le cadre de ce projet est très très important aujourd'hui pour MGI parce que ça va permettre en fait d'élargir notre marché d'une part et d'élargir les intervenants qui interviennent dans la chaîne logistique. Vous avez parlé des assureurs, effectivement. Mm-hmm. On peut très bien imaginer qu'un assureur, dès qu'il a l'information comme quoi la marchandise est bien déchargée, il va libérer les marchandises, sa caution, etc. Donc il y a des impacts financiers très importants sur ce projet.
Que dit notre coach Augustin sur ce projet ?
Très très beau projet et moi ce qui m'intéresse toujours c'est les rythmes d'innovation, c'est-à-dire que toutes vos innovations, les trois que vous avez, quels sont dans vos rêves les plus fous, les points de bascule dans lesquels on va voir par exemple tous les cargos circuler à la voile sur le globe ? Donc pour vous, quel va être le rythme de diffusion de ces innovations ?
Le point commun entre nous trois, c'est
Michel Veil.
C'est Marseille déjà.
C'est Saint-Nazaire, on est au live. Ouais. Mais peu importe, le transport maritime est international par vocation. Non, notre point commun, nous en parlions, c'est de convaincre les chargeurs. Ce sont les usages des chargeurs qui feront évoluer la qualité, qui amélioreront la qualité du transport. Donc, de notre côté, nous venons d'afficher des partenariats très forts et très, très pertinents pour nous avec le groupe Manitou, donc leader mondial, et le groupe Beneteau, un des principaux acteurs.
Oui, qu'on a reçu
donc,
ici.
Il faut, voilà. Et puis Renault qui s'était déjà déclaré au mois de novembre. Donc ce sont les chargeurs, en adoptant les différentes propositions des armateurs tels que nous et des services d'amélioration de la documentation ou de suivi qui feront évoluer les usages.
On reste ensemble et je vous propose de continuer à répondre à Augustin dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h29.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on attend bien sûr vos questions, 3921 et hashtag Europe 1 sur Twitter. À tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. On s'intéresse au transport maritime aujourd'hui et à ses innovations dans le secteur. Vous pouvez pendant encore quelques minutes poser toutes vos questions. C'est maintenant ou jamais. Twitter, hashtag Europe 1, 3921. Ça, c'est pour appeler Europe 1.
Et nous sommes avec Michel Perry, président de Neoline, les cargos voiliers, société nantaise. Sylvain Prévost, qui est directeur business développement chez Traxens, traçabilité des containers avec des capteurs intelligents, basé à Marseille. Et Dominique Le Breton, membre du directoire de Marseille Gyptis International, basé également à Marseille. Notre coach, c'est Augustin Paluel-Marmont aujourd'hui. Et Elisabeth Assayag est évidemment avec nous. Elisabeth, justement, on parlait tout à l'heure des cargos à voile. Je crois qu'il y a, d'autres startups toujours sur la même façade, d'ailleurs,
oui,
qui se sont positionnées.
Aussi, qui vont inventer des cargos à voile moins polluants. Vous parliez de la voile de travail tout à l'heure. Ben, c'est exactement ça. C'est la startup Zephyr et Boré. Qui développe un système de voile rigide à installer sur les transporteurs maritimes. Et donc, l'objectif, eh ben, c'est exactement la même chose, hein, c'est réduire ses émissions de dioxyde de soufre. Et là aussi, le cargo du futur pourrait bien ressembler aux vieux navires, l'image que l'on a des vieux navires marchands. Un petit peu quand même. Des voiles qui brisent les océans.
Laissez-nous rêver.
Mais oui, c'est bien. La nouveauté, là, c'est que la toile deviendrait totalement rigide.
Je crois qu'on a une question, oui. Une question d'Isabelle qui a composé le 39-21,
oui,
Anissa.
Et qui nous écoute dans le Bas-Rhin à Ilkirch. Elle voudrait savoir quelle serait la pollution en cas de naufrage d'un transport maritime de type proposé par Neoline.
Ah, Michel Perry.
Donc la marine marchande est parfaitement méconnue, bien que tout le monde en dépende. Et malheureusement, on a tendance à en parler seulement quand il y a un accident. Donc je ne m'exprimerai certainement pas sur l'accident en tant que professionnel. Donc le Neoliner, il n'y aura pas de fuel à bord. Voilà. Donc c'est le sujet du fuel qui s'échappe de cette épave effectivement actuellement. Donc seulement du gasoil. Alors ce gasoil, malheureusement, il s'évaporerait, mais il n'arriverait pas sur les côtes, ce qui est quand même un dommage, mais il n'arriverait pas sur les côtes. Ensuite, sur Neoliner en particulier, il n'y a pas de conteneurs empontés. Donc tous les conteneurs sont dans le garage, donc en cas d'incendie, très précisément, si on faisait un parallèle avec cet accident, l'espace clos est protégé par un système d'extinction fixe et l'incendie créerait des dommages à la cargaison, mais serait éteint avant de causer la perte du navire.
On a une question de Pierre aussi, qui a composé le 39-21, qui nous dit « On a évoqué les bateaux à voile porte-containers. Quelle capacité de conteneur peut-on espérer sur ce genre de bateau ? Est-ce qu'on est sur la même chose qu'aujourd'hui ? On était sur des rouliers, précisément, capacités. »
J'ai dit qu'en tant que primo-amateur, nous n'irions pas nous confronter au transport massifié, que l'objectif, ce n'est pas du conteneur. Donc, le Neoliner est un roulier. Donc, aujourd'hui, c'est 386 VP, c'est-à-dire, c'est anecdotique. Le Neoliner est fait pour du transport de marchandises hors norme, donc roulante, donc des choses trop larges pour entrer dans un conteneur, trop hautes, trop valorisées, qui ont nécessité de voyager dans un espace clos et protégé.
Donc, pas de conteneur, en tout cas pas pour l'instant.
Voilà, pas pour l'instant. Par contre, nous préparons déjà la suite. Et donc, par contre, je peux même vous dire que le groupe Renault, qui a été notre premier partenaire, nous avons accroché son intérêt en lui parlant des navires de prochaine génération, où là, nous pourrons aller chercher un peu d'effet d'échelle. Mais il faut passer par la phase validation du 136 mètres.
Et les Neoliner prendront la mer en 2021 ?
En 2021.
2021. Vous avez évidemment tous des liens avec ce transport maritime. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans le secteur aujourd'hui ? Alors, vous êtes évidemment, vous Dominique Le Breton, sur le secteur depuis 1985. Donc forcément, il y a des choses qui ont changé depuis. Mais est-ce que là, depuis quelques années, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge ?
Alors, on sent qu'on est aujourd'hui dans une dynamique où on parle de smart port comme de smart city, où effectivement on a de plus en plus de données qui vont de plus en plus vite, qui ont de plus en plus de valeur. Et donc dans le transport maritime, effectivement, peut-être qu'on a été un petit peu moins rapide que d'autres secteurs à digitaliser ces process, mais on sent qu'il y a vraiment aujourd'hui, et on le voit, il y a des start-up qui se montent. On est dans le cadre des projets de smart porte métropolitain à Marseille, où il y a de nombreuses start-up qui innovent. Et nous, ayant 30 ans d'existence et ayant mis en place trois générations de systèmes, dont notre dernier système CI5, on vise en fait à pouvoir intégrer toutes ces évolutions, toutes ces innovations, toutes ces start-up qui vont émerger, pouvoir échanger avec nous.
Et juste pour comprendre, la France se situe comment dans cette dynamique d'innovation par rapport aux autres grands pays Est-ce qu'on est bien, pas bien ? Est-ce qu'on est à la bourre ?
Alors, on est très bien. Moi, je suis... pas dithyrambique, mais je suis... je dis que la France a vraiment, au niveau du digital, au niveau du métier que je connais le mieux, on est vraiment en avance. On a un leadership à Marseille sur toute toutes ces différentes innovations. Traxens en fait partie. Hein. Nous, on est partenaire et on collabore avec notre écosystème portuaire marseillais.
Et pour compléter, je crois que justement, il y a des choses qui se passent en ce moment à Marseille.
Marseille, notamment, le port de Marseille, la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence et ex-Marseille Université ont lancé, là, il y a quelques mois, en octobre, un Startup Challenge. Hein. Vous parliez de start-up, de smart, pour sélectionner une poignée d'entreprises qui vont potentiellement apporter des nouvelles solutions à toutes ces problématiques-là.
Oui, des nouvelles solutions. Il y en a encore beaucoup à inventer, Sylvain Prévost ?
Il y en a plein. Non, il y en a plein.
Vous en avez déjà dans les cartons.
Je crois, pour revenir, on en a dans les cartons. Pour revenir à la question sur à quel point on est en avance, je pense qu'il y a, il y a un sujet d'avance technologique, mais je crois qu'on a une vraie avance de vision aussi. C'est-à-dire quand on se compare avec la concurrence, on parle souvent dans la disruption, dans le digital, c'est le modèle d'affaires qu'il faut savoir transformer. Et je crois qu'on a une vraie vision de modèle d'affaires différent pour rendre finalement faisable des choses qui n'étaient pas auparavant. Et donc nous, c'est comme ça qu'on se positionne aussi. On a beaucoup de concurrents, encore une fois, qui visent les chargeurs directement en leur offrant des boîtiers pour suivre leurs conteneurs. Nous, on a pris le pari d'aller faire le partenariat avec les armateurs, avec une vision de massification et de co-commercialiser finalement la donnée à l'ensemble des acteurs. Donc quand on parle de digital, ça va plus loin que la technologie.
Merci à tous les trois d'être venus participer à cette émission sur le transport maritime et son avenir. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
Merci beaucoup. Merci.
Il est 13h38.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous dans deux minutes. Elle est née en 1840 dans la Somme. Tuane a traversé les générations et c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Comme chaque jour, Raphaël, vous nous présentez une entreprise française qui va bien et celle d'aujourd'hui, elle a presque 180 ans.
Eh oui, cette entreprise, effectivement, elle a traversé le temps. Anissa, bonjour. Elisabeth Ducoté.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la PDG de Tuane. Vous fabriquez du matériel médical orthopédique qu'on connaît tous, évidemment. Je l'ai là, hein, par exemple, à côté de moi, si vous nous suivez sur Europe1.fr. Et alors, c'est votre arrière-grand-père, si j'ai bon, qui l'a fondé. Dans la Somme, on est en 1840 et tout commence avec du tissage, mais alors pas n'importe lequel, du tissu élastique.
Absolument, un tissu qui est difficile à faire et un tissu qui nous vaut très tôt des médailles aux expositions universelles. Donc on est dans le 19e siècle industriel qui se met en route avec des choses difficiles à faire et qui sont à ce moment-là plutôt dédiées aux bretelles parce qu'on avait de très jolies
bretelles. Les bretelles, les bords de sous-vêtements par exemple.
Exactement, ou les bandeaux de tennis.
Et alors comment est-ce que ça évolue? C'est votre grand-père qui à un moment donné va reprendre l'entreprise juste avant la Première Guerre et qui est confronté finalement à une situation difficile parce que l'usine dans la Somme part en fumée. C'est là qu'il décide de délocaliser, de partir en région stéphanoise.
Absolument, il recherche un savoir-faire parce qu'ayant une bonne spécialité industrielle, il veut retrouver la même chose. Il ne veut pas se dégrader sur le plan de la capacité et de l'expertise. Et donc il va à Saint-Étienne où il retrouve des petits ateliers puis progressivement il rachète une usine. Mais il le fait aussi avec une idée, qu'est-ce qu'on va faire de ce produit-là et qu'est-ce qu'on va faire une fois que les bretelles ne sont plus à la mode, ce qui arrive assez vite au 20e siècle, et il observe de façon extrêmement empirique et extrêmement curieuse, il observe quelque chose de très précis sur sa cicatrice d'appendicite. Il s'aperçoit que la cicatrice est beaucoup plus belle sous l'élastique du sous-vêtement. Et il se dit, dans le fond, cet élastique, ce tissu élastique va peut-être pouvoir avoir un effet sur la cicatrisation.
Donc et à tout part d'une expérience personnelle.
Absolument. Et d'une espèce de curiosité de quelqu'un qui se disait regardons plus loin et soyez observateur. Et de façon très très empirique, évidemment.
Alors, il y a la bonne idée, mais comment est-ce qu'il fait pour convaincre le corps médical?
Alors, à ce moment-là, il rencontre beaucoup de médecins, des médecins français, des médecins américains, et il se dit qu'avec ce tissu, on va pouvoir aider la cicatrisation, alors de choses qui sont très sérieuses, très graves, par exemple l'ulcère veineux, qui est effectivement une plaie très difficile à cicatriser, plusieurs mois, plusieurs années, quelquefois, très douloureuse. Et donc, ils font des tests, et avec ce tissu élastique, qui est un tissu pas très large, quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres de large, ils vont faire les premières bandes élastiques de contention pour la cicatrisation.
Alors évidemment, petit à petit, tout évolue. Hein. Vous faites de plus en plus de choses. Vous abandonnez complètement le vêtement dans les années 90, mais vous attaquez différents produits, j'ai envie de dire, avec des produits dédiés sur des pathologies précises.
Oui, tout à fait. À ce moment-là, on élargit, je dirais, le champ de ce qu'on sait faire et on ne se limite pas simplement à l'insuffisance veineuse et à cette plaie très difficile qu'est l'ulcère. On se dit, on va entrer par exemple dans la traumatologie, c'est-à-dire des gens qui se sont abîmés le poignet, le genou, la cheville, etc. On va s'intéresser aux articulations et au traumatisme de ces articulations et on va se mettre à faire des chevillères, des genouillères, des coudières. Et donc, on va rentrer dans d'autres champs pathologiques et puis le champ pathologique du dos qui est évidemment le grand mal du siècle. J'ai mal au dos et donc comment est-ce que je vais pouvoir...
Les fameuses ceintures pour les lombaires.
La ceinture qui va permettre de bouger, mais de bouger avec la sécurité d'une ceinture qu'on va mettre.
Et aujourd'hui, vous faites du sur-mesure. Ça représente combien de votre activité ?
Alors, le sur-mesure, nous en faisons dans tout ce que nous proposons. C'est-à-dire que nous voulons être attentifs au patient suffisamment pour pouvoir lui donner, même s'il a une morphologie un petit peu exceptionnelle, nous lui pouvons lui donner un produit. Mais c'est un petit morceau de notre chiffre d'affaires. Par contre, nous le garantissons à tous les patients.
Que dit notre coach de cette belle aventure familiale ?
C'est une superbe marque, superbe aventure. Et moi, je suis un peu sous le choc parce que je connaissais le bandeau de tennis. Non, qui ne se fait plus. Quelle est la part de l'international pour vous en termes d'export, de business ? Est-ce que c'est une marque très française ? Est-ce que ça rayonne dans le monde entier ou est-ce que vous en êtes là-dessus ?
Alors en fait, on a maintenant 40% de notre chiffre d'affaires qui se fait hors de France. C'est-à-dire qu'au moment où on a été leader, il y a une vingtaine d'années en France, on s'est dit, si on veut croître, il faut croître à l'extérieur. Donc on a franchi les frontières, ce qui est difficile dans la santé parce qu'on ne soigne pas la même chose avec les mêmes produits lorsqu'on sort de France. Et les habitudes thérapeutiques et les habitudes de soins ne sont pas les mêmes. Donc c'est un véritable exercice de sortir de la France. Et donc maintenant, effectivement, on a une filiale dans chacun des pays d'Europe. Et
vous avez quatre usines, c'est ça, un peu plus de 2000 salariés.
C'est ça. Et puis, on a fait deux acquisitions en Californie récemment.
Donc, tous les produits sont fabriqués chez vous ?
Oui, on est made in Tuan.
D'accord.
Voilà, pas de sous-traitance, et ça, c'est important.
Pas de sous-traitance, non. Nous faisons tout chez nous parce que nous voulons offrir aux patients ce que nous avons de meilleur.
Vous avez déjà pensé au coup d'après. Alors, les générations suivantes sont là. Hein,
oui, absolument.
Elles sont déjà dans l'entreprise.
Absolument.
Et vous voulez innover. Vous dites, on veut travailler sur des bandages. On est à l'extérieur du corps. Aujourd'hui, qu'on pense à l'intérieur.
Alors, en fait, on est toujours à l'extérieur du corps. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'implantable. Mais, par contre, nous réfléchissons énormément au digital. Parce que quoi de plus approprié, je dirais, pour prendre les mesures du corps ou pouvoir donner un signal au corps qu'une orthèse, par exemple, qui va être sur la peau. Donc on est en plein sur comment va-t-on pouvoir apporter un complément d'information en digitalisation de nos orthèses.
C'est donc les générations qui suivent qui vont prendre le relais. Vous disiez les petits-enfants sont déjà dans l'entreprise.
Alors les enfants sont dans l'entreprise et nous venons d'ouvrir un Tuan Lab, c'est-à-dire un endroit où il n'y a que du connecté et que de la digitalisation et que des ingénieurs qui sont entièrement dédiés à cette miniaturisation d'électronique, alors qui n'est pas du tout du textile, mais d'électronique qui va permettre de donner un signal au corps ou de recevoir du corps un signal.
C'est une entreprise moderne qui nous vient de 1840. C'est Tuan, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci. Il est 13h48.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Un nouvel outil pour les conducteurs, c'est Olite qui l'a fabriqué, un éthylotest connecté pour prendre le volant en toute sécurité. A tout de suite.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, tous les jours, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour.
Un éthylotest qui permet de connaître sa concentration d'alcool instantanément. Hein ? J'ai bien dit instantanément, ça existe et c'est une start-up aixoise qui l'a mise en place, Elisabeth. Ça s'appelle l'Ocigo.
Oui, c'est un éthylotest révolutionnaire, on peut l'appeler ça comme ça. Il est breveté, il est connecté à votre téléphone portable. Concrètement, il mesure instantanément la concentration d'alcool dans l'air expiré et il est capable de vous conseiller à quel moment c'est bon pour vous, ben de reprendre la route ou de la prendre. Tout simplement, ça vous parle,
Anissa ? Ça vous parle, Anissa ?
Ouais. La technologie utilisée est une technologie infrarouge miniaturisée qui offre une précision et apparemment une fiabilité qui était jusqu'ici réservée aux forces de l'ordre, aux policiers et aux gendarmes. L'application que vous téléchargez vous guide, elle vous explique comment souffler de la bonne façon et si vous êtes positif, et bien toujours cette application vous indique au bout de combien de temps vous pourrez reprendre le volant et le temps nécessaire pour retrouver un taux d'alcool nul dans le sang.
Bonjour Guillaume Nessa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes
Merci
cofondateur d'Olite. Olite qui a créé donc l'éthylotest. Alors, il est pour qui ?
Mais il est pour tout le monde en fait.
Oui.
On le dédie là principalement en fait dans un premier temps aux professionnels parce qu'il y a il y a un réel besoin avec les entreprises qui ont des flottes automobiles ou des métiers à risque. Mais on va le proposer d'ici le mois de juin en fait, au grand public et donc accessible à tout le monde.
Alors je précise qu'il est avec nous. Hein, si vous voulez le voir, vous pouvez en vous connectant sur europe1.fr.
Alors comment il marche cet étigelotest ? D'abord, il est assez beau, hein, il est très, très esthétique. Vous
Merci.
Pouvez nous le décrire ?
Je féliciterai l'équipe design. Ouais, le décrire, oui, c'est assez simple en fait. On va analyser en fait votre taux d'alcool dans l'air expiré. Donc on a réfléchi en fait à un cas d'usage le plus simple.
C'est-à-dire lequel ?
Donc vous appuyez sur un bouton, l'appareil va se démarrer un cycle automatique. Vous allez mettre un embout. Vous allez souffler dedans et il vous suffit juste de souffler pour avoir...
Il ressemble un peu à un petit thermomètre pour prendre la température.
Ouais, c'est
un peu le même style. Et donc, l'utilisateur souffle dedans et là, qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qui apparaît ?
Donc, il y a le taux. Donc, on va afficher un taux jusqu'à un seuil légal. Donc, le seuil légal en France. Alors, pour le conducteur avéré et pour le jeune conducteur qui n'est pas le même en France.
Et comment est-ce qu'il fait le distinguo ?
Alors, ça se fait via l'application.
D'accord.
L'application, en fait, justement, c'est pour ça qu'on l'a développée, parce qu'elle apporte plus de choses, plus de fonctionnalités.
Donc l'appli est en parallèle de l'éthylotest.
Oui, elle est connectée en direct.
Voilà. Elle est connectée en direct.
Oui, tout à fait. Elle est synchronisée en temps réel et on a voilà, d'autres fonctionnalités, comme vous l'avez si bien présenté, vous dire à partir de quand vous allez pouvoir reprendre le volant et vous donner voilà, des conseils. Avoir un historique.
Quel type de conseil ?
Mais
quel type de conseil ?
Quel type de vin il faut boire ?
Voilà.
Avec modération, Augustin.
Quel type de conseil ?
Ouais, principalement des conseils à partir de quand vous allez revenir sous le seuil légal, quand vous serez de retour à zéro, vous redemandez à partir de... vous recheckez à partir de quand vous allez pouvoir...
Revérifier,
oui. Voilà.
Justement, cet éthylotest, qu'est-ce qu'il a de différent aujourd'hui par rapport à tout ce qui est proposé ? Est-ce que vous sauriez nous peut-être dire aux auditeurs qui nous écoutent pourquoi choisir celui-là et pas un autre ?
Oui, bah c'est important, merci, parce que c'est le premier, le seul éthylotest à avoir la même technologie que les éthylomètres embarqués par les forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, c'est les grosses valises qu'on retrouve... dans des camions ou dans les postes de police.
Mais en miniature.
Et en miniature, voilà. Donc c'est la même fiabilité.
Alors justement, il y a une marge d'erreur. Il peut se tromper cet éthylotest ?
Alors oui, en plus, il y a un sujet en ce moment qui est un peu d'actualité. Mais oui, comme tout instrument de mesure, en fait, il y a des plages de fonctionnement, une plage de précision. Et même si c'est réglementé, qu'il y a de la norme derrière, tout instrument en fait, a une variabilité.
Ouais. De l'ordre de 20%.
De l'ordre de 20% maximum,
oui,
sur les mesures. Et, voilà.
Une question du coach.
Ouais, combien ça coûte ? C'est
250 € prix unitaire. Voilà.
D'accord.
Donc c'est un investissement, cet éthylotest.
C'est un investissement aussi sur la garantie de la fiabilité. C'est aujourd'hui un éthylomètre, si on le compare, c'est 5 000 €. Donc qu'est-ce qui coûte cher à l'intérieur ? Bah, c'est la technologie plus l'application qu'on dédie avec ses conseils.
Voilà. Et on aura un jour les éthylotests directement dans les voitures ?
Ça vient, oui.
Dans les voitures, ouais.
Ça vient, ça sera.
Comme là, vous avez
ça se développe. Ouais. Ça se développe, ça sera peut-être.
Ça existe dans les bus maintenant.
Dans l'option. Hein. Oui, ouais, pour tout ce qui est conducteur, notamment de personnes. Mm. Et c'est important.
Vous avez dit tout à l'heure que vous le dédiez justement aux professionnels. Vous avez déjà un retour d'expérience ? Il y a déjà des professionnels qui l'ont testé. Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Oui, bah que c'est.
Parce que vu le prix, effectivement, je suppose que c'est d'abord eux qui sont concernés aussi, qui peuvent en acheter pour leur chauffeur.
Tout à fait. Donc c'est intéressant parce qu'on démarche donc depuis le début d'année toute cette prospection et on a les différents cas d'entrepreneurs, alors ceux qui connaissaient pas le produit, qui savaient pas du tout comment, quel usage en faire, et puis ceux qui sont habitués justement à avoir ce type de produit et cas d'usage. Oui, ça reste un outil dans lequel ils sont confiants par la technologie et par son fonctionnement.
On rappelle son nom ?
Ça s'appelle l'Ocigo.
Ocigo, merci d'être venu nous en parler. Start-up aixoise donc aujourd'hui pour cette solution. Merci à Augustin qui était avec nous aujourd'hui, notre coach. Demain, ça va vous plaire, Elisabeth Anissa. Oui. Demain, nous parlerons des séries. Et oui, parce qu'il y a Série Mania.
Bien.
Et vous allez voir qu'en France,
avant le week-end, c'est parfait.
On sait faire.
Il y a de très bonnes séries françaises, en effet. À demain, Raphaël Duchemin.
Midi 30, 14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.